Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, LeRéveilDesFans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Les héritiers de la Force et la ville de Cusset vous invitent à la 18e édition de Génération Star Wars et Science-Fiction. Joignez le rendez-vous annuel des fans de Star Wars en France.
Chewie, we're home.
Cette année, la surface d'exposition élargie permettra plus d'animation et de contenu comme
des acteurs Star Wars et d'autres invités spéciaux,
des décors grandeur nature,
des conférences,
des concours et compétitions,
un quiz Star Wars,
des démonstrations de jeux et de combats au sabre laser,
ainsi que la présence de costumés de la 501st,
la Rebel Legion et du Jedi Order.
We would be honored if you would join us.
Génération Star Wars et science-fiction.
À l'espace Chambon et au centre Éric Tabarly de Cusset. Le week-end du 30 avril et 1er mai 2016. Pour plus d'informations, visitez le www.genstarwars.com.
The Force is calling to you. Just let it in.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational!
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
The Force is strong in this one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by!
We would be honored if you would join us.
Chewie, we're home.
Bonjour et bienvenue à Star Wars en direct pour cette émission numéro 3 consacrée à la littérature. Je suis Thomas et je suis rejoint par Dany.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Dany, ça te fait quoi que j'anime ta propre émission?
Ça fait différent, mais je suis tellement occupé présentement à faire de l'arrière-scène de Star Wars en direct que ça me dérange absolument pas.
J'aurais presque attendu que tu me dises que t'étais content, mais bon, si ça te dérange pas, c'est, je me dis que c'est déjà ça.
Ben, j'adore beaucoup animer, donc c'est certain que j'aime ça être devant le micro, mais il y a trop de travail en arrière-scène. Donc j'essaie le plus possible d'en faire, mais ça arrive souvent que je dois vous laisser le micro.
Et donc nous sommes donc le lundi 15 février 2016 et nous allons partir aujourd'hui pour une émission en duo, ça tombe bien, c'était la Saint-Valentin hier, bah tu vois, on se fait une émission romantique. On va commencer donc par, on va rappeler nos partenaires, Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O, Génération Star Wars et Science Fiction. Donc ça fait quand même un sacré paquet de partenaires. Et avant qu'on commence donc rapidement notre émission, Dany, tu avais un petit message à passer justement par rapport au recrutement. Tu recherches en fait quelqu'un dans le back-office, on va dire, hein, pour t'aider à monter les émissions, c'est ça hein?
Oui, exactement. On est toujours à la recherche d'un éditeur sonore et éditeur vidéo pour nous aider. Parce que comme vous avez pu le constater, on a de plus en plus d'émissions hors série. Donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie à faire ça en arrière-scène. En plus, tout le monde a une famille, un boulot, etc. Donc on a besoin des gens pour nous aider. Puis en plus, ça va nous permettre de délivrer des émissions de meilleure qualité et de façon plus régulière. Donc si vous êtes intéressé, allez sur starwars.direct/recrutement. Regardez, il y a des postes d'affichés. Si vous rencontrez les qualifications, ben remplissez le formulaire. Et puis vendez-vous là, quand vous écrivez votre message. Dites-nous pourquoi que vous seriez un bon candidat pour Star Wars en direct, parce qu'on reçoit des demandes, mais je dirais que la majorité n'atteignent pas les prérequis. Donc, si vous faites partie, vous avez de l'expérience, vous avez des meilleures chances. Donc, c'est ça, en gros.
Voilà pour ce qui était de notre petite annonce. Nous allons donc peut-être faire un petit what's up, Dany, rapidement, en Star Wars.
J'ai terminé récemment le roman Battlefront, Twilight Company, qu'on va probablement parler un petit peu plus tard dans l'émission. Pour le reste, c'est beaucoup, beaucoup de choses en arrière-scène. Donc, j'ai pas eu le temps beaucoup de me consacrer à autre chose. Une chance qu'il y ait des audiobooks parce que ça me permet de lire dans l'autobus en allant au travail, sinon, sinon j'aurais pas le temps de lire.
Ça, c'est un truc souvent, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool, les audiobooks. Surtout que sur Star Wars, c'est quand même particulièrement bien fait.
Oui,
parce que vous avez les sons, vous avez différentes voix de doublage, etc. Que nous, en France, en audiobook, moi, les seuls audiobooks que j'ai dû me faire, ça devait être, je crois, la saga Millennium en partie, et puis Harry Potter, mais parce que c'est hyper, hyper populaire. Mm-hmm. Mais quand on est sur du Star Wars, on n'a encore jamais eu d'audiobook. Mm-hmm. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, c'est justement, c'est un moyen de lire plus que... Par exemple, voilà, quand tu dis que tu vas au boulot, bah, tu te mets tes romans, que sinon, t'es obligé de bloquer du temps pour lire, quoi, parce que lire un roman, ça prend du temps. Surtout quand tu te lis un Le Star qui fait 600 pages. Et c'est vrai que moi, si on pouvait avoir les audiobooks, ce serait bien. D'autant plus qu'ils font tout en audiobook.
Presque tout, ouais. Bah, du moins en anglais, moi, je devrais pas dire que je lis les livres, je les écoute. Mais je dirais que 90-95% des livres paraissent. Il y a les livres juniors qui en ont moins, mais tous les livres pour adultes, là, les romans pour adultes sont tous disponibles, là, vraiment. Et la production est incroyable. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'en français, il n'y en a pas, parce qu'il faudrait tout qu'ils redoublent les voix, ils modifient les voix.
Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas, justement, en français, prendre un seul, éventuellement, narrateur, tu vois?
En fait, il y a un seul narrateur, même en anglais. C'est qu'il est
il change sa voix, en fait.
Oui, exactement. Il est extrêmement bon. Et il est aidé de la technique en arrière-scène. Donc, la technique l'aide un peu à modifier sa voix plus pour que ça ressemble, par exemple, à C3PO ou un autre. Donc, donc c'est vraiment bien fait.
Ouais, mais est-ce que, du coup, on pourrait pas se contenter d'un audiobook classique sans les sons, les bruits qui explosent, la musique, machin? Et puis d'avoir quelque chose de sobre, en fait, finalement, ça serait déjà bien, ça permettrait de tout lire, parce que moi, même dans l'ancienne UE, j'ai jamais pu tout lire, justement. Mm-hmm. Il y avait trop.
Mais je sais pas si en France, c'est quelque chose que les gens font beaucoup lire les audiobooks ou pas, donc j'ai aucune idée.
Peut-être que ça pourrait être une idée, en tout cas. Et j'avais même pensé à une idée qui pourrait être sympa, c'est que, par exemple, imaginons des gens qui feraient des audiobooks, comme toi, tu avais fait, je me rappelle, fait un audiobook, justement, sur une histoire que tu avais imaginée, d'ailleurs, que tu avais fait en anglais.
Ouais, ça s'appelait Star Wars in the Shadows. Donc, c'était en anglais, même, je l'ai écrit en anglais. C'est environ 3 heures total. C'est comme un film sans narrateur et sans visuel, en fait. Parce que tous les effets spéciaux, quand les gens marchent, t'entends les pas, t'as les bruits d'environnement et puis t'as de la musique tout le long. Donc, c'est vraiment...
Du coup, je me dis, peut-être qu'un équivalent pourrait être fait en français par des fans, par... tu vois, des gens qui... Une communauté un peu comme nous, qui ont la radio, j'en sais rien. Mais je m'étais dit, peut-être qu'un jour, ça arriverait. Tiens, si jamais, dans le recrutement, si quelqu'un avait envie de s'essayer à ça, puis ça pourrait être des fichiers, tu vois, qui se passent. Une personne qui s'enregistrerait en train de lire un livre en MP3, et puis, tu vois...
Mais c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Juste pour te dire, le temps que ça m'a pris, c'était avant que je retourne aux études. Donc, ça m'a pris 9 mois à faire l'audiobook à temps plein. Donc, 40 heures semaine, ça m'a pris 9 mois. Donc, oui, incluant l'écriture.
Et voilà, c'est ça. Imaginons,
trouver les...
existants.
Ouais.
Sur des romans existants, je te dis, le roman existant, c'est tu prends le bouquin, tu te le lis. Tu vois, si par exemple chacun se faisait ça, peut-être qu'on pourrait cumuler...
Oui, mais je dirais que c'est la production qui est le plus long. Vraiment... trouver tes acteurs vocaux.
Mais si t'es tout seul, regarde, si t'es tout seul à lire ton livre.
Ah, peut-être, ouais.
Tu vois, un peu comme, tu sais, tu prends un livre pour gamin, il y a un seul narrateur qui le lit, qui n'est même pas obligé de changer sa voix, mais qui pourrait lire le bouquin d'une traite. Et puis, tu vois, ça te prend le temps de le lire, sauf que tu le lis à voix haute, quoi, tout simplement.
Mm-hmm. Oui, c'est certain qu'il y aurait un petit peu de recherche pour que bien choisir la musique, mettre les effets spéciaux.
Et même sans musique, moi, je te parle un truc sobre, justement sans rien. Donc, voilà. Donc, l'idée d'Anip, est-ce que tu vas nous faire une troisième section encore dans Star Wars en direct? Ça pourrait être si vous êtes auditeur de Star Wars en direct et que vous avez envie de lire et d'enregistrer un audiobook, faites-nous parvenir votre CV à starwars.direct.
Non, je pense pas qu'on va aller jusque là. Mais par contre,
réagissez à cette idée, en tout cas.
Ouais, et qu'est-ce qui pourrait être intéressant, peut-être, c'est avoir une fan-fiction créée par nos auditeurs de façon commune, et puis qu'on pourrait monter en petits segments qu'on pourrait passer.
Tout à fait.
L'émission. Ouais. Ça pourrait être intéressant.
Ouais, alors voilà, donc du coup, on vous donne plein d'idées. Allez-y, si vous avez envie de... voilà, on pourrait grossir et avoir d'autres idées. Concernant mon WhatsApp, Moi, ça a été assez simple. Hein. Ça a été surtout de la série télé, la série Star Wars Rebels qui a repris. Et puis The Clone Wars, où je me suis remis sur la saison 6, là, parce que c'est les vacances. Donc le matin, on écoute ça le matin, on regarde ça le matin. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est parce que j'avais un peu décroché The Clone Wars à la fin, quand il passait. Mm-hmm. Et puis finalement, de me remettre dessus, quand on avait reparlé, qu'on avait fait un peu le background de Star Wars Rebels qui était lié à la fin de The Clone Wars, des trucs que j'avais oubliés. C'est Loïc qui m'avait dit, tiens, il y a tel point, puis j'avais un peu zappé, tu vois, la fin de Dark Maul, je me rappelle plus ce qui se passait, sauver Joe Press qui mourait, etc. Donc là, j'ai commencé par la saison 6, mais je pense que je vais pas me faire la 5 aussi. Il y a des trucs que j'avais complètement zappé, j'ai un peu l'impression de les redécouvrir, et du coup, c'est assez agréable.
J'aurais le goût de faire la même chose parce que ça fait extrêmement longtemps, je les ai seulement vus quand ils sont sortis à l'origine.
Et puis, si tu veux, autant les deux, trois premières saisons, surtout les deux premières, moi, où j'avais maté et rematé, il y a des épisodes, j'ai peut-être vu 10 fois, 12 fois. Autant les derniers, je les matais une fois, j'avais un peu décroché sur la fin de The Clone Wars, et finalement, là, voilà, ça redonne un peu de l'entrain.
Excellent.
Donc voilà. Maintenant, on va passer donc dans notre section hyperespace. On aura une première partie sur les comics sortis en VF chez Panini, et puis une autre section sur les romans à la fois VF et puis VO. Nous pouvons maintenant partir en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Pour commencer, la première série, tiens, on va faire une belle transition puisque nous parlions des séries télé. La série dont je vais parler, allez Dani, devine la série.
Qui est Rebels.
Ouais, alors laquelle du coup tu penses en série comics? Tu connais un peu ou pas?
Pas du tout, mais ça doit être Kanan.
Voilà, c'est ça, c'est la série Kanan. Donc qui à la base devait être une mini-série, je crois, en 6. Et qui finalement est devenue une double mini-série, donc qui sera en 12. Et donc là, en VF, chez Panini, donc... La série est écrite par Greg Weissman et Pepe Larraz. En ce qui concerne ce premier tome qui nous est proposé par Panini, nous avons droit aux issues numéro 1 à 6, donc c'est-à-dire la première moitié de cette mini-série, qui est par contre en issue numéro 12, donc au tome 2 en VF, et qui sera remplacée donc par la série sur Podamron.
Ah, ça c'est intéressant, pardon.
Voilà, donc qui est assez prometteuse d'ailleurs. Hein. Mais en attendant, voilà, donc moi j'étais assez sceptique sur cette série. Alors, qu'est-ce qui se passe, Dani? Tu t'avais suivi un petit peu, toi, l'histoire?
Pas du tout.
Je vais te raconter un peu cette histoire. Tu poses
c'est
des
bon.
Questions,
oui,
hein,
oui, oui, oui. Non, ben, la seule chose que je me souviens, c'est qu'on voit plus en détail comment que Kanan a perdu son maître.
Alors,
et
ça,
puis
c'est
comment
très
qu'il
rapide,
évolue.
C'est dans la première issue, ça.
Ok, d'accord.
Effectivement, on a au départ, donc, on a Kanan, donc, qui est avec son équipage du Ghost, et puis il a un flashback. Et donc, dans ce flashback, eh bien, en fait, on va revoir Kanan quand il est jeune Padawan, avec son maître Depa Bilaba, sur la fin de la guerre des clones, en fait, juste avant l'ordre 66. Et donc, on sent, donc, Kanan, qui est donc, un peu Depa Bilaba, hein. Donc il est avec son maître, et puis Kanan c'est un petit peu le Padawan dernière génération, voilà, c'est-à-dire un peu intrépide, qui n'en veut quoi, etc. Et puis qui aurait un fond un peu bourrin et qui est cadré notamment par son maître et puis par les clones. Du coup on sent alors c'est ça qui est intéressant, c'est la relation avec les clones. On sent voilà qu'ils sont vraiment potes, etc. Ils se posent des questions sur pas mal de choses, donc ça c'est bien aussi. Et puis donc du coup arrive l'ordre 66, et puis du coup il flingue son maître, et donc Kanan donc réussit à s'échapper, hein, et donc il est poursuivi par les clones, dont deux chefs clones, hein, je sais plus exactement leur statut, qui le poursuivent et puis qui font quelque part un point d'honneur à choper Kanan. Et donc Kanan, quand il se passe ça, il décide donc d'essayer de retourner voir les Jedi, et puis il a un message de Obi-Wan Kenobi qui lui dit, donc le fameux, vous savez, qui est laissé dans l'épisode 3, qui dit non, faut pas retourner à Coruscant, ça craint. Donc du coup, lui, il est un peu paumé, et il est pris, il est aidé par un espèce de moitié pirate, moitié contrebandier, qui va lui apprendre un peu la vie, lui faire faire
des missions.
Il va le mettre dans ses combines à lui, et qui va le cacher en fait des clones, en lui disant voilà, il faut que tu oublies ton identité de Jedi, donc tu n'es plus, parce qu'au début il s'appelle Khaled Dum, hein, je crois, et donc progressivement il devient Kanan Jarrus. Et donc du coup il est avec ce gars là qui n'aime pas trop non plus les clones, hein, qui sent en fait que la République qui est en train de se transformer en empire n'est pas terrible, hein. Donc du coup ils sont amis ennemis quoi, enfin ils sont frères ennemis un petit peu quoi, ils s'aident un petit peu, mais voilà. Et donc ils sont poursuivis par deux clones qui sont tout le temps après eux, qui les harcèlent, hein, d'une certaine manière. Et on voit l'évolution de Kanan, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on comprend comment il en est arrivé là.
D'accord.
Et puis à la toute fin on a une dernière issue dans laquelle justement on a Kanan en fait avec l'équipage du Ghost, et puis une petite histoire qui est en lien avec son enfance, justement.
Et donc, le flashback n'est pas seulement au premier épisode. Ça, c'est comme un long flashback, je comprends bien.
Le flashback va durer pendant 5 numéros. Okay. Et sur le dernier, on reprend à l'époque de Star Wars Rebels.
D'accord.
Et donc, du coup, ça boucle assez bien la boucle. Donc, je sais pas, est-ce que je t'ai donné envie avec cette histoire, Danny?
Un peu, oui. Est-ce qu'il y a un lien avec le livre A New Dawn? Je sais pas si tu l'as probablement pas lu. Quand Kanan rencontre Hera pour la première fois, est-ce qu'on voit ça dans la BD à quelque part?
Non, ça, on le verra pas. C'est trop tôt, visiblement. Je crois que quand il rencontre Hera, ça se fait dans le roman dont tu avais parlé, là.
Mm-hmm, ouais.
Enfin, c'est Henri qu'on avait parlé la dernière fois dans le Star Wars littérature. Mm-hmm. Donc non, on n'en est pas là. Là, il y a déjà tout l'équipage du Ghost, okay, avec lui. Non, on voit pas du tout quand il va rencontrer Hera.
Okay.
Bon, c'est vrai que moi, j'étais un peu sur ma faim, mais alors, ça aurait pu être intéressant parce que ça aurait pu croiser avec l'autre format, mm-hmm, mais alors, je pense qu'ils sont complémentaires, quoi.
Ouais.
Donc oui, c'est peut-être ce qui aurait pu manquer, mais... Bon, voilà.
Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je dois avouer, comme roman, mais... mais si la série télé n'existerait pas, le roman aurait été très ordinaire.
Oui, c'est ça, voilà. C'est intéressant. Ben là, c'est un peu pareil. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est que c'est Kanan et que, du coup, le personnage est populaire et que, voilà, qu'on l'aime bien. Et puis, c'est intéressant aussi de se replonger dans cette... Parce que là, on est un peu dans une période où, à part ce tome-là, enfin, que ce soit même tous les autres romans, tout se concentre sur la trilogie originale et la post-trilogie. Mm-hmm. Et t'as un peu l'impression que la prélogie est oubliée, alors que finalement, c'est une période qui a quand même, où il se passe quand même quelque chose d'intéressant, mm-hmm, quoi. Et donc, du coup, je trouve que c'est une belle manière de la mettre en valeur et puis de faire le lien entre, justement, oui, c'est tellement important... De ce Kanan qui est dans Star Wars Rebels, oui, il est plutôt période trilogique, hein, puisqu'il y a l'Empire, mais il a croisé ces deux générations, donc il a la croisée des deux, et puis son background, voilà, c'est super intéressant de connaître son background, parce que c'est quand même un des personnages les plus sympas, quoi.
Mm-hmm. Tout à fait d'accord.
Donc moi, en tout cas, me concernant, donc c'est vraiment un tome que j'ai apprécié, et c'était un de ceux que j'attendais le plus, hein, d'ailleurs, parce que je suis super fan de Star Wars Rebels, et j'attendais vraiment ce tome-là, je suis vraiment pas déçu. Après, voilà, si c'est pour nous raconter l'enfance de Kanan avec Depa Bilaba, ou alors avec dans sa période un peu transitoire, hein, entre sa période de Jedi et sa période avec le Ghost, quelque part, peut-être qu'on allait tourner en rond. Je pense que c'est bien qu'ils aient fait deux arcs narratifs de 6 épisodes. Passer ça, je pense que ça va être bien que ça s'arrête.
Puis il n'y a pas de croisé avec la série télé, absolument pas, dans les épisodes qu'on connaît jusqu'à présent. Là.
Ben, chronologiquement, ça se croise, ouais, parce que si tu veux, voilà, tu retrouves l'équipage du Ghost, mm-hmm, mais il n'y a pas d'éléments hyper importants, tu vois, qui te compléteraient un truc, sinon comprendre la psychologie de ce personnage.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment ça, savoir qui il est et d'où il vient. Voilà, c'est ça le principal intérêt. Mm-hmm. Est-ce que tu as envie de l'acheter, Danny, ou pas?
J'ai envie d'acheter toutes les BD, inquiète-toi pas, c'est plus le fait que j'ai pas le temps de les lire.
Ouais, parce que franchement, ce qui est quand même sympa en comics, autant en roman, ce qu'on disait tout à l'heure avec le débat sur les audiobooks, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de tout lire, mm-hmm, autant quand t'es en comics, bah ça va vachement vite, quoi. Hein.
Ouais. Mm-hmm. Non, toi, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours été plus dans les romans, donc c'est encore ça qui est qui m'attire le plus. Mais je vois que depuis l'acquisition de Marvel, de tout ce qui est BD et tout simplement la mise de côté de Legend, on voit que le côté bouquin pur, les romans, on dirait qu'il prend du recul, en fait.
Disons qu'à une époque, en fait, je pense que dans l'ancien univers étendu, les romans étaient un peu plus la vraie histoire, la vraie, mm-hmm, continuité, et les autres c'était un peu périphérique.
Mm-hmm. Là, c'est l'inverse. Là.
Bah, c'est pas l'inverse, à mon avis, c'est équitable, quoi. C'est mm-hmm, bien proportionné.
Enfin, on verra comment ça va évoluer. On va en parler un petit peu plus tard quand on va être rendu dans les romans.
On est complètement sur des prémices, quoi. Mm-hmm. Du coup, voilà. Mais bon, Kanan, moi, je me doutais que ça allait être bien. Donc voilà. Donc moi, je vous invite quand même à essayer de vous lancer. Moi, je sais que par exemple, voilà, je l'ai lu en prenant le temps, hein, tu vois.
Est-ce que tu donnes
trois quarts d'heure, une heure, t'as lu ton tome, quoi, tu vois.
Donc, est-ce que la série est terminée maintenant? Oui.
Eh bien, non, elle n'est pas terminée, okay, justement. Ils sont en train de finir, justement, et ça va se terminer au numéro 12 en single. Okay. Et le deuxième TPB tardera sûrement pas à sortir et on manquera pas de le chroniquer. Mais elle va se terminer incessamment sous peu, quoi.
D'accord.
Je crois d'ici deux mois, je crois qu'en VO, il devrait en être au tome 10 ou 11, un truc comme ça.
Okay.
Donc, ça va aller vite, quoi. Et d'ailleurs, saluons Panini qui, quand même, dès que la dernière issue sort, boum, on a le TPB qui arrive direct. Donc ça, c'est, mm-hmm, ça, c'est assez sympa. Et puis alors, les éditions sont vraiment belles, hein. Enfin, je veux dire, on a On a une couverture mate, c'est du carton rigide. Avant, les 100% Marvel, c'était du souple. Hein. Donc, ils font vraiment des beaux efforts. En plus, ils chapitrent les épisodes. Ça, c'est un truc qui est pas négligeable parce qu'avant Panini, ils te sortaient des pages à la suite. Tu savais pas où t'en étais. Donc là, t'as vraiment le repère, en fait, de chaque chapitrage. Et puis, t'as du rédactionnel, plus qui te situe, en fait, la BD, etc. Donc là, maintenant, ils font du bon boulot. C'est pas si cher que ça pour la qualité du produit. Donc, c'est vraiment top.
Excellent.
Voilà. Ensuite, on va continuer donc avec un autre tome qui était sorti à cette même époque, qui fait partie de la série Star Wars. C'était quoi En route pour le réveil de la Force. Hein,
ok, ouais. Journey to the Force Awakens.
Voilà, Journey to the Force Awakens. Et donc, du coup, ils avaient aussi une petite BD là-dessus. Donc, moi, je me rappelle qu'à l'époque où ils avaient annoncé ça, je pensais que ça allait être une maxi-série. J'avais pas bien compris au départ. Je pensais que ça allait être une maxi-série qui nous raconterait entre l'épisode 6 et 7, tu vois, le truc hyper important. Le fait est que finalement, après, on a été un peu déçus. Donc, c'est donc en français, c'est les ruines de l'Empire, et c'était en anglais, c'était
Shattered Empire.
Shattered Empire, voilà, exactement. Donc du coup, à l'écriture, on a Greg Rucka, donc qui est quand même qui nous a fait quand même quelques petits romans hein, sur Star Wars, enfin qui commence à s'y mettre. Hein. Mm-hmm. Et au dessin, on a Marco Cecchetto. C'est une mini-série par contre en 4, donc c'est vraiment minuscule en fait, donc c'était impossible que ça nous relie l'épisode 6 à 7. Et puis finalement c'est assez anecdotique, c'est-à-dire qu'en fait, bon, le concept c'est que au lieu de nous parler voilà de l'équipe, hein, parce qu'on voyait une photo où il y avait, on voyait l'équipe d'Endor en fait.
Comme la scène finale.
Exactement, voilà, avec la musique, avec la bringue des Ewoks quoi. Ouais. En fait on imaginait que ce serait voilà, toute la saga, en fait, on retrouve chacun des personnages du Big Three, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça se concentre sur les parents de Poe Dameron.
Ah.
Et plus particulièrement sur la maman de Poe Dameron. Et donc, du coup, on comprend que ces personnages, ils faisaient partie, en fait, de la bataille d'Endor, en fait. Mm-hmm. Et on voit qu'ils ont une relation de couple, en fait, un petit peu difficile puisque elle est pilote et lui donc elle est le pilote beaucoup et lui il est plutôt dans les assauts terrestres en fait et du coup il se croise assez peu, il se croise entre deux batailles à chaque fois, donc c'est assez bien amené en fait puisque du coup entre chaque bataille ils ont quelques minutes si tu veux de répit, puis
on pourrait pratiquement faire un parallèle avec Lost Star d'un certain point de vue.
Ah pff.
Sont dans le même camp dans ce cas-ci.
C'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils sont vraiment dans le même camp. Mm-hmm. Par contre, oui, voilà, ils se voient en bribe, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est. Puis surtout, tu sais qu'ils vont finir ensemble et qu'ils vont avoir un enfant. Et d'ailleurs, ils en parlent, ils parlent de leur gamin, je crois, qui s'appelle Poe, hein, tout simplement. Ils parlent justement d'avoir une maison, hein. Alors je sais plus du coup, il me semble que Poe Dameron est déjà né et que, alors ce sera à revérifier, voilà, tu vois, j'ai un petit trou de mémoire. Je demande s'il est pas chez les grands-parents quoi ou quelque chose comme ça, tu vois, qui serait petit et gardé chez les grands-parents. Je crois que ça doit être ça parce qu'il doit avoir un peu plus de 30 ans dans The Force Awakens. Hein. Mm-hmm. Il me semble que c'était ça dans ma tête. Donc du coup, ce tome finalement, moi j'ai entendu beaucoup de gens le critiquer, contrairement à Kenan qui a été assez apprécié. J'ai entendu beaucoup de gens dire ouais c'est pas si terrible. Machin. Bon, Henry a aimé lui, hein, mais Henry il est bon public. Quand même. Et finalement, ben moi j'ai vraiment accroché parce que en plus ça positionne en fait notre Poe Dameron. Ça on comprend pourquoi il est déjà si impliqué, si bon pilote. On peut comprendre que voilà c'est peut-être ses parents qui l'ont formé là-dessus. Et puis ils ont plein de petites missions secondaires en fait sur l'après bataille d'Endor.
D'accord.
Et on comprend tout de suite que ben voilà l'Empire n'est pas mort.
Mm-hmm.
On croise notamment quelques impériaux. On sent ce qui se passe un petit peu dans Lost Star. Hein, que voilà chacun essaye de
reprendre contrôle un peu.
Ben ouais, essaye de reprendre le contrôle et que du coup les mecs ils sont toujours hargneux. Ils ont toujours envie d'attaquer. Et puis, voilà, on sent les positions un peu partout. Tu vois, ils vont même sur Naboo un moment. Mm-hmm. Donc, on retrouve pas mal de repères. Et donc, du coup, on voit Mot Mothma. On voit... Et alors, du coup, la maman de Poe Dameron est copine avec Leia.
Ah.
Donc, tu peux comprendre que Poe Dameron, voilà, est déjà bien intégré par Leia, qu'elle le connaît, tu vois. Donc, il y a tout ce background. Alors, on ne sait pas ce que deviennent les parents de Poe Dameron parce que, visiblement, ils ont à peu près le même âge que Luke et Leia. Donc, si on ne les voit pas... Alors, peut-être qu'on va les revoir, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont morts entre-temps ? Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont déserté la Résistance ? Est-ce qu'on ne va pas les revoir ? Donc, c'est des personnages qui peuvent réapparaître. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est qu'on voit un espèce de personnage qui remplace l'empereur, justement. Il y a un personnage rouge avec une tête en bocal et qui vient donner des ordres. Et dedans, à travers, on voit le visage de l'empereur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Moi, ma première théorie, quelqu'un aurait utilisé ce support en fait pour faire croire que l'empereur est toujours en vie et chapeauter et diriger l'empire. Mais ça donne des pistes sur, parce que finalement dans le Star, on sait toujours pas comment ils ont, qui a repris officiellement le flambeau quoi, tu vois. Donc est-ce que c'est passager ou est-ce que ça va être une subtilité pour reprendre le... On voit comment ça se passe du côté de l'Empire dans cette époque un peu déchirée. Et puis contrairement, tu vois, à des romans, ce qui est génial, c'est que t'as les visuels, quoi. Mm-hmm. Tu vois, à un moment, t'as une mission, ils attaquent des bases, ils ont des petites missions, mais vite fait, il se passe pas grand-chose en soi. Hein. On a même, d'ailleurs, la maman de Poe Dameron fait aussi une mission avec Luke Skywalker.
Ah oui.
Donc là, à pied, quoi. Le papa de Poe Dameron fait une mission avec Han Solo. Elle fait une mission avec Leia. Donc du coup, c'est vachement bien, quoi. Il y a encore le côté un petit peu escarmouche. Et puis on a donc un autre truc que j'apprécie. On a des aliens. La maman de Poe Dameron est super copine avec un Duros notamment, hein, qui pilote les vaisseaux avec elle. Tous les vaisseaux qu'on connaît sont repris. Donc ça, c'est vraiment des éléments positifs. Et donc finalement, moi, je m'attendais à un truc pas terrible. Et puis, mais je l'ai acheté quand même parce que tu vois, côté complétiste, si tu veux. Moi, du coup, je me dis voilà, on en a pas beaucoup. Et puis autant, tu sais, quand tu prends un truc super en retard et qu'il y a énormément de tomes à acheter, là, finalement, ça nous en fait acheter un tous les 2-3 mois. Finalement, un tome tous les 2-3 mois à 15 balles, c'est pas énorme, quoi. Finalement, c'est le petit plaisir, tu vois, même un peu complétiste qui est facile pour l'instant. Ça prend pas trop de place. Moi, j'ai rendu tout. Les anciens UE, donc du coup, j'ai plus du tout de Delcourt, donc j'ai une grosse place pour les entreposer. donc du coup, voilà. Et donc, je l'ai acheté juste en me disant, tu vois, je l'avais pris, c'est un des derniers que j'ai pris, en me disant, allez, il faut bien que je le prenne, parce que j'avais entendu beaucoup de gens me dire du mal de ce truc-là. Et là, tu vois, là, je l'ai tout sous les yeux, je passe les pages, et c'est magnifique, c'est super beau. Donc, le Marco Cecchetto fait du super boulot. Je trouve que l'ancrage et les couleurs ont été super. On a des couvertures magnifiques, on reconnaît bien les persos, donc vraiment, c'est génial. Et puis, du coup, on sent que ça nous amène à l'épisode 7. Tu vois, moi, je l'ai eu après avoir vu l'épisode 7. Je crois qu'il était sorti avant, mais t'as envie d'en voir encore après l'épisode 7. Bah, ça te calme un peu ton ardeur, quoi.
Tu parlais que t'avais vendu tout tes Delcourt. Ouais. Une des choses que j'ai oublié de mentionner en début dans mon WhatsApp, c'est... j'ai tout serré mes livres Legend dans des boîtes pour faire de la place dans mes bibliothèques.
Et t'as gardé, toi?
Oui, je les ai gardés.
Alors, tiens, une question. Est-ce qu'au Canada, vous avez les mêmes éditeurs que nous en VF?
On les avait les mêmes. Maintenant, je pense que les Pocket Junior et tout ça, on n'a pratiquement aucune copie qui vient maintenant. Donc, de souvenir, il faut pratiquement les commander en Europe maintenant.
Ah ouais? Ah, parce que les gens, ils achètent de la VO, quoi, en fait.
Ouais, de plus en plus. Je veux dire, on est très bilingue ici. Donc.
Et alors, du coup, sur les BD, c'est pareil. Vous n'avez pas de Delcourt ni de Panini?
Oui, il y en a. La distribution est moindre, un peu.
D'accord, donc les Panini Comics, par exemple, vous pouvez y avoir accès, mais il faut aller plus ou moins dans des...
Les boutiques plus spécialisées ou des
plus
trucs comme ça.
Plus spécialisées, par exemple, si tu vas dans un supermarché, tu ne trouveras pas une BD de Star Wars, quoi.
Non. Non.
Ah, mais chez nous, c'est le cas, hein. Moi, tu vois, mes BD de Star Wars, je les achète à Carrefour, quoi, par exemple. Tu vois, donc, si tu veux, c'est hyper accessible et du coup... Et en plus, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que quand tu vas acheter des comics, tu sais, dans les supermarchés, enfin dans les hypermarchés, on va dire, mais aussi dans les supermarchés, généralement, t'avais que Walking Dead, tu vois, c'est le seul truc qui est vraiment hyper populaire et se vend. T'avais Walking Dead, et puis de temps en temps, t'avais un Batman. Mais là, tous les Star Wars, ils sont dispo là-bas, donc ça veut dire qu'ils ont une distribution énorme et que je les vois partir, donc ça veut dire que ça se vend en plus.
Mm-hmm. Non, ici, faut vraiment que t'ailles soit dans une boutique spécialisée comic book. Qui ont des produits en français, mais je dirais que la plupart des produits francophones se retrouvent dans les librairies où est-ce que tu as toutes sortes de bandes dessinées comme autant des Tintin, Astérix et compagnie, Walking Dead. Tu auras une section spécifique aux produits en français, en fait.
Ouais. Donc voilà. Est-ce que je t'ai aussi donné envie avec celui-là?
Ah, j'ai toujours eu l'envie.
Hey, franchement, il vaut 13 balles, hein, donc c'est rien, Danny. Hein.
Ah, je sais bien. J'aimerais bien.
Donc voilà, du coup, un super bouquin. Et donc, je vais finir donc, mes reviews, comme ça, du coup, on sera à jour en sortie. Mm-hmm. On est avec Star Wars Lando. Donc, le Star Wars Lando, eh bien, c'était... donc ça, c'est une mini-série. Donc, on avait une mini-série donc, en 5, hein, par personnage presque secondaire, on va dire. Entre personnage principal et personnage secondaire, puisque finalement, on avait la princesse Leia dans la première mini-série, qui fait un peu partie du Big Three, mais qui n'est pas non plus... très souvent mise en avant. On a Lando et le prochain on aura Chewbacca.
Ah.
Voilà. Et donc du coup pour l'instant, donc là c'était le deuxième qui est sorti en VF hein, de cette série. Donc, et qui se situe cette fois-ci avant l'épisode 5, c'est-à-dire qu'en fait notre Lando n'est pas encore
le chef de la cité des nuages.
Voilà, c'est ça. Il est encore en galère, ouais. Il manque de thunes. Il est pas aussi bien. Alors bon, est-ce que ça fait pas une petite incohérence puisque normalement, tu sais, quand il achète le cochon globe Star Wars Rebels, tu vois, normalement il est déjà sur Bespin et puis son cochon globe doit lui permettre de trouver des gisements. Alors est-ce qu'il a pas manqué de pognon, je sais pas. Normalement, il y a un moment il possède ce truc ou est-ce qu'il y revient entre temps, je sais pas. Bon, c'est pas non plus une grosse incohérence puisque tout est possible. Hein. Et donc du coup, il cherche à faire du pognon dans cette histoire. Le synopsis de départ, c'est ça. Voilà, il cherche à avoir de l'argent en fait. Oui, donc avant de devenir le synopsis, c'est avant de devenir l'administrateur de la cité des nuages. Voilà, c'était un joueur, un contrebandier. Voilà.
Il a peut-être perdu son argent justement en juin. Ouais. Donc c'est pour ça.
Ouais, on peut toujours. Ouais. Donc il décide de monter un dernier coup. Il s'agit seulement de voler un vaisseau, sauf que en fait, le vaisseau qui va piquer pour faire du pognon, c'est le vaisseau de Palpatine.
Bravo, il a mal choisi. Hein.
C'est ça. Voilà, c'est-à-dire, le mec. Donc du coup, pas de bol, il vole en fait le vaisseau de Palpatine. Et donc, il monte ce coup donc avec des mecs un peu malfamés quand même. Hein. Avec lui, donc il y a Lobo en plus, hein, puis il y a un espèce de gnote. Donc tu vois les gnotes, hein, donc pour les auditeurs, donc les petits cochons qu'on trouve dans justement dans l'Empire contre-attaque. Hein,
ceux qui démontent C-3PO.
Voilà, c'est ça, les assistants. Hein.
Ouais.
Et donc voilà, il se retrouve avec ce vaisseau. Avec eux, ils ont deux espèces d'assassins ninja, plus ou moins, qui ressemblent un peu à Black Panther, je sais pas si tu vois, dans les Marvel. Donc ces personnages sont assez étranges, parce qu'on sait pas vraiment si... En plus, j'ai regardé je me suis renseigné un peu sur Internet, on sait pas vraiment leur race, on a aucune information. Moi, j'avais l'impression que c'était des mecs avec des têtes de panthère, justement, en costume. Ou alors, est-ce que c'est leur vraie race et que c'est des gueules de panthère, je sais pas, bon...
Mais il y a une race, il me semble, qui est très féline dans l'univers Legend. J'essaie de me souvenir, mais...
Ouais, mais là, elle n'est pas reconnue en tant que telle, parce qu'il y avait une race féline. Hein, ouais. Effectivement, je me rappelle, on les trouvait dans les UE, donc justement, les gros chats, là, mais qui étaient carrés, eux, ils sont plutôt fins et athlétiques, quoi. Donc,
d'accord.
Alors que les autres, c'était plutôt des gros bourrins, hein, je me rappelle, j'ai plus exactement le nom. Mais là, voilà, ça change un peu. Et donc, du coup, Palpatine est super dégoûté. Et donc, il envoie son meilleur assassin pour récupérer le vaisseau et flinguer Lando. Voilà, c'est
donc
ça l'idée.
Donc, est-ce que c'est V2, son meilleur assassin?
Et non, c'est un espèce de chasseur de primes.
Ok.
Voilà, c'est-à-dire que je pense que Vador, ça vaut pas le coup de réquisitionner Vador pour si peu, on va dire. Enfin, voilà, du coup, c'est un espèce de chasseur de primes qui a des airs un peu des airs mandaloriens dans l'armure. Voilà pour l'idée. En fait, dans ce vaisseau, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un artefact Sith. Et donc, du coup, Lando étant accompagné de son pote Gnote, là, qui... D'ailleurs, je crois que c'est une femme Gnote qui connaît beaucoup de choses, dire « Ouais, c'est un artefact Sith, on va pouvoir faire du pognon. » Et donc, voilà, ça fait un lien quand même aussi avec la prélogie, finalement, puisque du coup, s'il a cet artefact Sith, c'est pas pour rien. Donc du coup, eux, la seule logique, c'est pas trop l'artefact Sith, c'est voilà, le pognon qu'on va pouvoir s'en faire. On a justement les races félines, il y en a une des deux qui est influencée par la puissance en fait de cet artefact. Hein. Et puis donc on a une petite révélation hein, sur le personnage qui est en fait je vais pas le spoiler quand même, tu vois, je laisse un peu de mystère, qui est le fameux mercenaire. Les deux têtes de panthère, voilà, il y en a une qui est un peu influencée par l'artefact Sith, on sent qu'il y a un côté malsain. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire, il y a un gros lien sur Lobo. Il y a l'histoire de Lobo. On pourrait dire qu'en fait, l'objectif de cette histoire, au-delà de nous montrer, parce que finalement, c'est assez insignifiant sur Lando, un des objectifs de cette histoire, c'est que on lui donne le background de Lando.
De Lobo.
C'est-à-dire qu'on s'y attendait pas. Moi, je pensais que l'histoire était plus centrée. Alors, elle est centrée sur Lando, mais elle nous donne le background de Lobo. Et on va comprendre pourquoi il est de telle ou telle manière. Et il y a tout un truc expliqué avec ses implants qu'il a sur la tête. Donc ça, c'est pareil, je vais pas spoiler, quoi. Mais la fin, ce qui est intéressant, c'est surtout la fin, où justement, on a ce petit retournement de situation sur Lobo que j'ai pas vu venir et qui est vraiment bien vu.
Cette BD m'intrigue.
Alors, par contre, autant les autres, j'ai été agréablement surpris. Lando, j'en avais entendu beaucoup de bien et j'ai un peu forcé pour la lire.
Ah ouais.
J'ai trouvé que la fin était bien. Le scénario, c'est Charles Soule, hein, qui est pas mauvais. Hein, en écriture, hein. Notamment il a écrit du Superman, du Red Lantern, il a écrit un peu chez Marvel, tu vois, du Wolverine, etc., etc. Donc celui-là, il a l'habitude. C'est lui qui va d'ailleurs écrire la série Obi-Wan et Anakin. Donc du coup, il est pas mauvais en scénario, mais voilà, je sais pas, c'était un peu anecdotique. Il y a des trucs qui me piquaient, qui faisaient pas assez Star Wars pour moi. Puis au final, ouais, je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas accroché. Je me suis un peu fait chier. Les deux têtes de panthère, ouais, ça m'a pas plu, moi. J'étais pas dedans. Et puis alors, il y a un autre truc, c'est Alex Maleev, en fait, qui a des colorisations très pastelles, en fait, avec des couleurs très sombres, tu sais, un peu comme, je sais pas si t'avais lu à l'époque les trucs sur l'Empire, sur la résurrection de Palpatine.
Ouais, Dark Empire.
Dark Empire, tu sais, avec des couleurs très sombres.
Oui. C'était un style très particulier, ça.
Voilà, c'était un style vraiment particulier. J'ai du mal, quoi. Les couleurs, ça fait pas réel. C'est tout noir, tout sombre. J'ai trouvé glauque. J'ai pas trop aimé. Alors que pourtant, les gens ont particulièrement apprécié. Bah, moi, ouais, je sais pas, ça m'a. Voilà, je pense que de tous ceux que j'ai lus, c'est un des moins bons avec la mini-série sur Princesse Leia.
D'accord.
Bon, tu me diras, voilà, pour l'instant, ils en ont sorti 5. Hein. donc voilà. Non, 3, 6. Bon, mais voilà, pour l'instant, moi, je suis pas très satisfait de ça. À chaque fois, les deux mini-séries centrées sur les personnages, Lando et puis Leia, sont pas terribles. Apparemment, le Chewbacca devrait être bien.
Sauf qu'il parlera pas beaucoup.
Comment?
On n'entendra pas Chewbacca parler vraiment.
C'est ça.
J'espère qu'Han Solo va être là ou quelque chose.
Eh ben non, justement, visiblement, il n'y a pas Han Solo.
Ok. Donc, ça va être dans une bulle particulière pour nous faire comme si c'était une traduction du Chirouk.
Ouais, je veux bien trouver où. Après, ce sera peut-être justement ça qui serait intéressant. Ça va être de traduire ses pensées, ses expressions autrement. Mm-hmm. Donc, voilà pour ce qui est. Lequel des trois t'a donné le plus envie dans les trois derniers?
Ben, l'histoire de Lobot m'intrigue. c'est le côté le plus étrange. Puis l'histoire de Poe Dameron aussi. Juste parce que j'aime beaucoup le personnage.
C'est pas l'histoire de Poe Dameron, on le voit.
C'est de ses parents plutôt, ouais, en effet.
Et surtout, je me dis que c'est des personnages qui peuvent être réutilisables. Mm-hmm. Et on le voit notamment dans les séries télé, parce que notamment avec la future série télé, tu sais, qui va arriver, parce que Star Wars Rebels visiblement devrait finir à la saison 3. Mm-hmm. C'est pas impossible qu'après on ait une série Road to Star Wars The Force Awakens, en gros, quoi. C'est d'ailleurs en gros qui se passerait après l'épisode 6, et bah qui nous dit qu'ils vont pas réutiliser ces personnages, parce qu'on peut se rendre compte que Disney fait justement de gros efforts pour réinsérer tous ces personnages, en fait, hein. Mm-hmm. Donc je me dis, voilà, c'est très certainement possible.
Mais ça reste la série Darth Vader et la série Marvel Star Wars qui m'intéresse le plus quand même.
Ah oui, non, mais qui sont excellentes, hein, elles sont excellentes, on est bien d'accord. Donc moi, je pour ceux qui seraient sélectifs, voilà, un avis général, j'aurais envie de vous dire, voilà, si vous aimez bien Star Wars Rebels, n'hésitez pas à prendre Kanan. C'est sûr que pour quelqu'un qui connaît pas Kanan, qui aime pas Star Wars Rebels, bon bah, il y a peu d'intérêt. Le Réveil de la Force, il est sympa parce que voilà, c'est ça donne une, enfin les ruines de l'Empire, hein, qui est en lien avec Star Wars, Le Réveil de la Force, il est sympa pour voilà, déjà pour le visuel et puis. Je sais pas, c'est ces petites histoires anecdotiques. Il peut se lire indépendamment. On n'a pas obligé de lire beaucoup de choses. Et puis le Lando, moi je le déconseille, mais bon, certains l'ont aimé, quoi, notamment pour le côté les couleurs, etc. Et puis la petite histoire sur Lobo. Voilà. Voilà pour ce qui est des comics. Et puis donc, du coup, le prochain tome à paraître en VF, bah, ce sera justement une autre mini-série, hein, dans la même veine que Lando et Leia, et qui sera centrée sur Chewbacca et qui sort au mois d'avril. Et puis après, me semble-t-il, au mois de mai, on aura le tome 2 de Marvel Star Wars et Marvel Darth Vader.
Et ça doit être déjà sorti en Amérique, j'imagine?
Oui, mais...
Ou tu donnes les dates américaines?
Ils sortent en single.
Ok.
Voilà. Et donc du coup, apparemment, c'est sympa. Et il y aura aussi un crossover qui s'appelle Vader Dawn. Alors, je sais pas comment ils vont... Est-ce qu'ils vont insérer Vader Dawn dans les tomes classiques, ou est-ce qu'ils vont faire, tu sais, comme ils avaient fait à l'époque pour Delcourt, Vector, tu sais, faire un tome à part? Mm-hmm. Qui serait à acheter en plus, je sais pas comment ils vont s'y prendre, Panini. Voilà, mais dans tous les cas, moi je leur fais confiance parce que pour l'instant ils font de l'excellent boulot, quoi. Vraiment, faut qu'ils continuent comme ça. Et donc, Dany, je te propose qu'on passe maintenant à la section littérature bouquin, on va dire.
Ouais, traditionnel.
Nous sommes donc dans la section littérature et donc nous allons pouvoir attaquer avec donc les romans PKJ dont on vous avait parlé la dernière fois dans Star Wars Direct Littérature. Le seul petit problème qu'on a, c'est que du coup, ni l'un ni l'autre n'avons lu l'intégralité de ces PKJ. Hein. Mm-hmm. Notamment les trois premiers qui étaient centrés, qui étaient donc des journées to the Force Awakens, et qui étaient centrés justement sur tout d'abord le Big Three. On avait trois tomes qui étaient sortis en même temps, qui étaient à une dizaine d'euros chez PKJ. Ils sont un peu plus gros que les pocket classiques. Et donc, c'est normalement des romans pour jeunes adultes. Hein. Mm-hmm. Le premier tome est écrit par Jason Fry et il s'appelle L'arme du Jedi. Hein.
Jedi's Weapon.
Voilà, donc une aventure de Luke Skywalker. La particularité de ces trois premiers tomes, de manière générale, c'est qu'ils sont tous très courts, en fait. Mm-hmm. Ils font un peu plus d'une centaine de pages. Et donc, du coup, bon, en plus, c'est écrit assez gros, donc ça se lit très, très vite. Néanmoins, les retours que j'ai eus, du coup, ça a été plutôt des bonnes critiques. Alors que moi, visiblement, c'est pas essentiel à la compréhension des livres. On a un premier tome, en fait, qui se concentre sur Luke et qui nous raconte justement juste après l'épisode 4 comment il va apprendre petit à petit à maîtriser la force. Donc ça, c'est des éléments qu'on n'avait pas eu.
Il y avait un petit peu dans le roman Heir to the Force, je sais, un des premiers romans... Heir to the Jedi, un des premiers romans du canon, en fait. Donc, où est-ce que Luke avait énormément de difficultés à contrôler la force? Il essayait de se fier sur qu'est-ce que Obi-Wan lui avait dit avant de mourir, mais il avait pas reçu beaucoup d'entraînement, en fait. Donc, tu le voyais en train d'essayer d'utiliser la force. Il y avait énormément de difficultés. Et puis, il y avait aussi un peu de difficulté à accepter son statut de héros, un peu. Parce qu'il venait tout juste de détruire l'étoile de la mort. Donc, j'imagine que ça suit un peu cette histoire-là.
Visiblement, ce qui était reproché à ce roman, c'est qu'il était pas terrible. Mmh. Et qu'il y a beaucoup de choses inutiles, quoi. Mmh. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'avais ressenti.
Oui, il y avait une histoire intéressante, mais qui s'est terminée très brusquement. Mais oui, c'était vraiment pas très fameux comme... c'est un des moins bons romans depuis le nouveau canon. Je parle de Heir to the Jedi.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ces romans, hein, pour tous, c'est qu'on a des liens avec l'épisode 7, à savoir que la plupart du temps, on a un prologue et un épilogue qui se passent pendant l'épisode 7.
Donc, alors, c'est là, ils se sont servis de flashbacks pour vendre les livres, en fait.
Voilà, oui, non, mais c'est complètement ça. Hein. De toute façon, le truc est fait pour vendre les bouquins. Visiblement, le lien est très... est vraiment moindre. Mais bon, voilà, ça peut toujours être intéressant, on passe un bon moment. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est le prix, parce qu'ils sont vendus à 10 euros. Pourquoi ? Pour 150 pages, ça fait un peu cher quand même.
Mm-hmm. Oui, comme moi, comme je te disais, j'écoute les audiobooks, et puis ces livres-là sont le même prix qu'un roman pour adultes. Et puis, c'est clairement pas... c'est pas 10 heures d'écoute, là, c'est probablement 2-3 heures d'écoute.
tu les achètes en CD ou tu les télécharges, du coup?
J'ai télécharge.
D'accord, et donc, du coup, tu les télécharges sur quoi? Sur un...
Sur iTunes.
Sur iTunes, si
je peux, j'obtiens mes romans par Audible, c'est une compagnie affiliée à Amazon. Et puis, tu peux les télécharger soit directement dans l'application de Audible ou télécharger sur ton ordinateur et le mettre dans iTunes ou peu importe. Donc, je fais un lien avec mon téléphone portable.
D'accord. Okay. On continue. Hein. Mm-hmm. On en a un deuxième donc, qui est écrit par Greg Rucka, donc le même qui a écrit Shattered Empire, les ruines de l'Empire, hein, dont je parlais avec les parents de Poe Dameron. Mm-hmm. Qui est centré sur Han Solo et Chewbacca, hein, puisqu'on en a un sur chaque Big Three. Et celui-ci donc, se déroule aussi à peu près à la même période. Et puis, du coup, on va y suivre Luke qui va être envoyé par...
Léa.
Par Léa.
Non, c'est Han Solo qui est envoyé par Léa.
Ah oui, j'ai dit l'inverse. Oui, Han Solo qui est envoyé par Leia pour faire une mission à la con, hein, un petit peu comme on voyait dans les aventures de Han Solo dans l'UE classique. Hein. Donc du coup, pareil, très très court. Hein. Des éléments qui sont positifs, visiblement, la relation avec Han et Chewbacca est sympa. Par contre, du coup, ça peut être un élément positif, c'est assez violent quand même. Mm-hmm. Mais apparemment, c'est une histoire assez classique, hein, finalement.
C'est peut-être considéré violent pour l'auditoire, qui est un auditoire plus jeune, étant donné que c'est des livres juniors. Donc, peut-être violent dans ce sens-là, mais que pour un roman pour adultes, ce serait tout à fait normal.
Et alors, on a aussi un petit lien avec l'épisode 7, visiblement, donc des parties de l'histoire qui se passeraient... dans le prologue et puis dans l'épilogue, mais on mettrait pas trop l'accent sur Han et Chewie, quoi. Les liens sont quand même assez maigres, visiblement. Et puis, on en a un troisième qui a l'air assez bien aussi, et qui là est plutôt centré sur Leia et sur la couverture, donc qui s'appelle Moving Target, donc il est écrit par Jason Fry également, mm-hmm. et Cécile Castellucci. Et sur la couverture, on y voit Leia avec le père de Kylo Ren, hein, je sais pas si t'as vu la photo, tu sais, le deuxième père de Kylo Ren, à savoir Ian Numb.
Le deuxième père de Kylo Ren.
Tu sais, t'as pas vu cette photo qui a tourné ?
Non.
Où il y avait une photo, en fait, donc il y avait Kylo Ren jeune. Et ils ont fait un photomontage, tu sais, avec des vieux pulls de l'époque, des vieilles chemises. Donc mm-hmm. t'avais Carrie Fisher, Harrison Ford. Et puis devant, il y avait.
Celle-là, j'avais vu. Mais
et après, ils ont refait la même, mais ils ont changé. Ils ont mis Ian Numb à la place de Harrison Ford.
Je me demandais de quoi tu parlais. Là,
c'est... Ouais, j'ai cru que t'avais eu la référence. Parce qu'il s'est passé justement sur le fil Star Wars, mm-hmm. de Star Wars en direct. Donc du coup,
ben, j'avais vu la photo originale, je l'avais vue, mais pas celle avec Ian Numb.
Voilà, donc il y a la photo. Voilà, du coup, et du coup, il y a Ian Numb à la place. Donc je pense que c'est pour les oreilles de Adam Driver, quoi. Mm-hmm. Hein, que c'est fait. Donc c'est assez rigolo, quoi. Et donc du coup, donc voilà, sur le roman, on retrouve ces deux personnages. Alors en fait, Leia, elle est là, ça, par contre, ça va se passer juste avant l'épisode 6. Et donc du coup, on voit Leia qui va préparer en fait l'attaque en fait de la deuxième étoile noire. Quoi. Mm-hmm. Donc du coup, c'est vraiment pas mal d'après les retours que j'en ai eu. Hein, on voit l'aspect un petit peu organisationnel et puis. On est emmené en subjectif, hein, à la place de Leia. On va ressentir, voilà, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, etc., etc. Donc du coup, voilà, ça, c'est un de ceux qui m'a fait le plus envie.
C'est un peu qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain roman concentré sur Leia. On va en parler tout à l'heure.
Ouais, tout à fait, de Claudia Gray. Ouais.
Ouais.
Alors, je pense que ce sera sûrement quand même. Moins poussé que Claudia Gray.
Non,
déjà,
c'est
parce
sûr,
que,
c'est sûr.
4 fois moins de pages, hein, généralement. Ce qui est marrant, c'est qu'en achetant les 3 bouquins, t'as moins de pages qu'avec juste le Star.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que tu arrives à 500 pages alors que le Star en a doit à 600, quoi. Donc, par contre, bon, du coup, oui, voilà, c'est assez, bon, l'histoire reste assez anecdotique. Hein. Et donc, du coup, pareil, on a un prologue, épilogue avec l'épisode 7 où ils font des liens aussi, avec un plus ou moins Aftermath, du coup, apparemment, quoi. Donc, mm-hmm. peut-être la diplomatie, etc. Et donc du coup, le quatrième tome qui est sorti chez PKJ, donc c'est le bouquin Lost Stars, donc de Claudia Gray.
Mm-hmm. Et toi,
tu as lu également, Dany, et que moi aussi j'ai lu.
Eh, on a lu quelque chose.
Voilà, exactement. qui doit faire à peu près de 600 pages. Et d'ailleurs, moi, je l'avais acheté, je m'étais mis. Je voulais pas le prendre, hein, parce qu'en plus la couverture faisait pas du tout envie. Le synopsis derrière fait vraiment bidon, mm-hmm. quoi. T'as l'impression que c'est Roméo et Juliette.
Exactement. Ben, c'est ça, j'en avais parlé dans un des Star Wars en direct avant
c'est
Noël.
Ça
ouais.
Envie.
Ouais, c'est ça. Donc vraiment, oui, je suis tout à fait d'accord. Dans ma tête, c'était Roméo et Juliette. Et je crois que la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est que je voulais lire du Star Wars. Un roman audio.
Tu l'as pris au pif.
Ah oui, j'avais déjà lu Aftermath. Donc j'ai dit, c'est quoi le prochain que je pourrais écouter. J'ai décidé de me taper Lost Star. J'ai dit, je vais prendre un risque. Puis, parce que je suis pas très très roman jeunesse maintenant. Donc j'ai dit, je vais prendre un risque pareil. J'ai été agréablement surpris. Vraiment là.
C'est marrant parce que du coup, ton risque a impliqué que moi, du coup, quand t'as fait un Star Wars Direct Express dessus, je me suis dit, s'il a fait un Star Wars Direct Express rien que là-dessus. C'est certainement que ça en vaut la peine, donc du coup ça m'a poussé. Donc moi je l'ai acheté, et du coup je crois que j'en avais parlé à Loïc qui du coup l'a acheté aussi. et du coup t'as un effet contagieux si tu veux. Mm-hmm. Et du coup j'ai vu Loïc donc sur une autre émission où il était invité, qui en a reparlé justement pour donner envie aux gens de la... Donc tu vois, peut-être que... Et alors du coup, bizarrement, dans les librairies vers chez nous, tu trouves facilement les 3 premiers, mais le Star tu le trouves moins.
Surprenant. Alors,
de là à dire que c'est grâce à ton Star Wars Direct Express, je sais pas.
J'ai un doute.
Ce serait un peu présomptueux, mais du coup, je pense que du coup, il a dû avoir une bonne presse et que du coup, il a été plus. Alors, est-ce que c'est aussi le rapport? Parce qu'il vaut le même prix que les autres. Hein.
Mm-hmm.
C'est ça qui est fou. Alors, est-ce que du coup, les mecs se disent, tant qu'à filer 10€, autant avoir plus de pages, quoi? Je sais pas.
Comme tu vois, je savais pas qu'il y avait 600 pages, étant donné que j'ai écouté l'audiobook. Oui, l'audiobook, je me souviens plus le temps exact, c'est entre 10 et 13 heures d'écoute. Donc, je me doutais que c'était la grosseur d'un roman pour adultes. Mais je pensais pas que c'était 600 pages. Donc, j'étais agréablement surpris qu'un livre jeunesse soit a eu autant d'attention, je veux dire en frais de longueur, parce que c'est pas tous les jeunes et les ados qui aiment se taper des livres de 600 pages.
Ah bah oui, mais je pense que ça a été acheté par des adultes hein, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Et alors, pour donner rapidement le synopsis, même si tu l'as déjà donné dans le Star Wars Direct Express, on est sur deux ados hein, d'une planète pourrie, hein, vraiment pourrie, oui. Qui sont de classes sociales différentes, donc de sexes différents, mm-hmm. De familles qui ne peuvent pas se blairer, donc, et qui entretiennent une amitié et un rêve, celui d'un jour de devenir des pilotes.
Exactement.
Sauf qu'à l'époque, pour être pilote, bah, faut intégrer l'Empire. Hein.
Exactement. Ben, ils ont rencontré
Tarkin,
Grand Moff Tarkin, lors de l'annexation de leur planète, parce que l'Empire faisait la conquête de planète en planète, donc quand ils ont annexé la planète à l'Empire, ben, il y avait une cérémonie et tout, et les deux se sont retrouvés dans un hangar, puis les deux aiment les vaisseaux, et ils ont vu une navette, puis ils se sont approchés un peu, et puis ils ont croisé Tarkin, qui leur a...
Tarkin, plus ou moins, leur sauve la mise, parce qu'ils sont embêtés par des voyous,
mm-hmm.
et du coup, Tarkin arrive et un petit peu les sauve un peu d'une mauvaise passe.
Oui, c'est ça.
Donc il y a un genre d'affect qui se développe avec lui parce qu'en plus il est gentil avec eux, donc mm-hmm. du coup tu sais un peu comme quand tu tombes amoureux un peu de ton bourreau quoi.
Ouais.
Et alors ce qui est vraiment génial dans ce truc là, c'est que tu vois vraiment les revers, le fonctionnement à l'intérieur, t'as toutes les différentes phases de la trilogie originale en fait et mm-hmm. même après quoi.
Oui.
Qu'on a la bataille de Jakku.
Mm-hmm. Mais c'est vraiment ça qui l'attrait, je considère dans ce roman-là, c'est que en plus du fait, bon oui, ils vont être à l'académie ensemble tout le long, il va y avoir des situations qui vont les séparer, tu sais, il va y avoir un sabotage d'une arme qui va faire qu'il y en a un qui accuse l'autre, etc. Donc il va y avoir une séparation un peu entre les deux. Ils s'aiment quand même, mais il y a un conflit à l'interne qui a été provoqué justement. Et puis bon, finalement, ils se retrouvent chacun assignés à deux endroits différents. Donc, Sienna est assignée, elle, dans le Devastator, donc le Star Destroyer de Darth Vader. Tandis que Tain, lui, est assigné comme pilote dans la Death Star. La première Death Star, en fait.
Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, en plus, t'es dans les coulisses mm-hmm. de tous ces trucs que tu vois de face. C'est-à-dire que tu vois pas ou très peu les grosses batailles, mais t'es dans les coulisses à chaque fois.
Mm-hmm.
Et tu sais un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est vachement intéressant, hein. c'est comme si c'est assez immersif en fait. Et puis alors un autre truc qui est génial, c'est que t'as des points de vue différents, c'est-à-dire que tu te dis, en fait quand tu te dis putain mais qu'est-ce qu'ils foutent dans l'Empire les mecs
mm-hmm.
Et en fait quand tu lis ce roman, t'arrives à comprendre les points de vue des gens qui arrivent à se dire que c'est bien finalement, ils partent d'une même base mais ils ont un fonctionnement différent, du coup à un moment Sienna justement ses parents sont en quelque sorte maltraitée par mmh. l'Empire. Et,
elle doit se mettre du côté de l'Empire d'un certain sens. Pour,
là, tu comprends pourquoi malgré tout, même ses parents veulent quand même qu'elle soit avec l'Empire. C'est-à-dire que tu comprends, en fait c'est un petit peu comme quand tu te... l'expression c'est se voiler la face un petit mmh. peu. C'est-à-dire qu'ils veulent se... Plus ils avancent dans la... Dans la
hiérarchie
avec l'Empire, ouais. plus c'est difficile de reculer en fait.
Mmh.
C'est le fait d'être pris dans un cercle... Tu sais, un petit peu, imaginons, tu pars dans un n'importe quel parti politique ou secte mm-hmm. ou religion un petit peu extrême. Mm-hmm. Tu mets un pied dedans, puis plus ça va, plus t'es pris, quoi, finalement.
Puis un autre exemple, il y a un des personnages, un des amis à Tain, puis Sienna, qui vient d'Alderaan et il est témoin de la destruction de sa propre planète natale. Et tout le long de l'histoire, même s'il y a de la difficulté, il reste dans l'Empire malgré tout. Donc ça, c'est vraiment...
Voire même, c'est lui le plus extrême.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, j'ai trouvé, alors, on va essayer de pas spoiler, mais la fin est géniale.
Mm-hmm.
Le dernier chapitre, je sais pas si c'était chapitré pour toi, où justement, on voit Sen, justement, Sienna, et puis ce mec d'Alderaan.
Mm-hmm.
T'as un prologue, en fait, où on te redonne la situation de tous ces protagonistes, et où tu te dis, putain, c'est incroyable, quoi. Là, c'est hallucinant, quoi.
Mm-hmm.
Et c'est vachement bien foutu, et ça appelle quelque part presque une suite.
Mm-hmm.
Ben, qui, d'ailleurs,
il garde en suspens. En fait, il pourrait avoir une suite comme il pourrait ne pas en avoir. En
fait.
Parce que ouais, c'est ça qu'on dira pas le résultat final. Mais la couverture en dit beaucoup. parce que oui, comme tu disais, on passe par tout. On passe par la capture du Tantive IV, la destruction de la Death Star, pendant la destruction de la Death Star, Tane était parti explorer, voir si la base rebelle était sur Dantooine, donc il est pas mort. Sienna pense qu'il est mort, etc. Il y a plein de petits détails. Et puis ça se poursuit sur la bataille de Hoth. La poursuite dans... C'est ça, Sienna qui était en charge de la poursuite des TIE Fighters du Millennium Falcon dans le champ d'astéroïdes. Puis là, elle perd les TIE Fighters qui est aux commandes, en fait,
du vaisseau. Vois aussi, tu vois, par exemple, la stratégie, comment ça se fait que... tu sais, au moment de la bataille d'Endor, tout l'avant Endor, en fait, il est tout expliqué. Ça, c'est vachement intéressant.
Mm-hmm.
Donc, du coup, c'est peut-être complémentaire avec les autres romans, notamment celui de Leia qui prépare la bataille d'Endor de l'autre côté. Mm-hmm. C'est comment, en gros, l'Empire prépare la bataille d'Endor avec leur stratégie, le plan qu'ils ont mis en place.
Mm-hmm.
Tu vois vraiment la stratégie de chacun dans les différents romans. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm.
Puis bon, oui, à un certain moment, Sienna, elle, est très loyale et l'honneur, pour elle, c'est très, très important, tandis que Tane, lui, a décidé de rejoindre la rébellion. Ben, en fait, il est pas tout de suite dans la rébellion, mais il est contrebandier un peu pendant un certain temps avec un équipage. Et puis, il rencontre, je le dirai pas c'est qui, mais il rencontre un pilote rebelle et qui va l'introduire dans la rébellion. Et puis, ils vont faire des missions pour l'escadron Coronet.
mais c'est vrai. Un autre élément aussi que moi j'ai adoré, c'est qu'elle maîtrise l'UE parfaitement.
Mm-hmm.
Elle maîtrise très bien Star Wars, elle utilise énormément de références, de races, de vaisseaux, elle en invente même, et dans ce qu'elle crée ou dans ce qu'elle décrit, on est dans du Star Wars, quoi. On s'est vraiment bien compris. Et puis vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'aspect psychologique, réflexion sur chacun des trucs. Limite, ce serait presque un roman qui aurait pu être écrit dans l'univers d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est hyper intéressant.
Et c'est intéressant qu'il ait été au-delà de qu'est-ce qu'on connaissait de la trilogie originale, parce que veux pas, on n'en connaît pas beaucoup encore sur... entre l'épisode 6 et 7. Et puis, ils nous ont donné le premier vrai coup d'œil intéressant avec des références visuelles. Pourrait dire en plus de la bataille de Jakku. Donc, on a touché pour la première fois la bataille de Jakku. Et faut le dire, le Star Destroyer écrasé qu'on voit dans la bande-annonce de l'épisode 7, c'est le Star Destroyer d'une des scènes du livre. Donc, c'est très, très intéressant. De ce côté-là, on fait un lien avec le film.
Même si le lien est très fanservice, parce qu'il change rien. Mais oui, c'est cool, quoi. C'est juste sympa, quoi. Du coup, tu visualises tout à fait, quoi.
Et il y a un autre lien qu'on n'a pas pu faire avant d'avoir vu le film. Je vais te le dire, peut-être que tu l'as pas réalisé qu'il y avait un lien avec le réveil de la Force. Oui. La planète d'Ar, D'HAR, qui est l'emplacement de la base de la Résistance... D'accord? Dans The Force Awakens. Lors d'une mission de Tane avec l'escadron Coronet, ils vont explorer cette planète-là pour voir s'ils pourraient pas avoir une base, installer une base à cet endroit-là.
Ah ouais?
Ouais. Donc il y a un lien avec l'emplacement de la base dans The Force Awakens.
C'est-à-dire que la nana, elle a quand même bien chiadé son truc, quoi.
Oh oui.
Et alors donc, du coup, Daddy, tu pourrais nous faire un lien, justement, puisqu'on parlait d'une hypothétique suite... ou un lien avec la sortie de son futur roman de Claudia.
Ah, bien sûr!
Allez, on t'écoute.
C'est bon, oui, on a appris cette semaine que... Bon, enfin, on a eu un premier extrait. On savait que le prochain roman de Claudia Gray, Bloodline, qui se passe entre l'épisode 6 et 7, enfin, une histoire qui se passe vraiment dans le cœur de cette longue période de plusieurs décennies. On va enfin avoir une histoire... qui se concentre sur un des personnages du Big Three, comme tu dis.
parce que pour l'instant, c'était un peu surfait, quoi, finalement. C'était pas vraiment Star Wars épisode 7. C'était étiqueté Star Wars épisode 7, mais il n'y avait rien d'épisode 7 dedans.
Exactement. Donc, en fait, le roman, il se déroule quelques années avant le réveil de la Force. Donc, selon l'auteur, et nous verrons à quel point l'ombre de V2 a des répercussions sur Léa. Donc, probablement qu'elle a une réputation. Je sais pas si les gens le savent que la fille de V2, peut-être que ça s'est su, parce qu'on ne sait pas si Luke et Léa ont mentionné que V2 était leur père, on ne le sait pas, peut-être qu'ils l'ont jamais dit. En fait, à ce moment, dans l'histoire, Bloodline, Léa est sénatrice et chef de la Nouvelle République, qui est une Nouvelle République paisible pendant plusieurs décennies après la chute de V2 puis de l'Empereur. Par contre, la nouvelle génération de politiciens n'a pas vraiment appris des leçons de la rébellion et des erreurs de l'Empire. Et puis Léa commence à avoir
Du coup, je vais te couper deux secondes, Dany, parce que tu dis, on est sur une république prospère?
Paisible.
Alors, paisible, c'est... Qu'est-ce que tu entends par paisible? Ça veut dire que le premier ordre est pas existant?
Non, il est pas existant encore.
Ah, donc du coup, chronologiquement, ça se passe
pas? Ben, il est peut-être existant, mais il est peut-être pas aussi connu. C'est peut-être ça, les failles que... Parce que
ils sont peut-être encore latents, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, Léa commence à voir des fissures dans la fondation du gouvernement qui pourraient mener la galaxie vers un dangereux avenir. Donc, c'est possiblement une dizaine d'années avant The Force Awakens. J'ai pas la chronologie exacte.
La réémergence du premier ordre. Enfin, l'émergence
D'une entité. Pas diabolique, mais d'une entité evil.
Peut-être qu'à ce moment-là, chronologiquement, peut-être que du coup, pendant ces 20 dernières années, quand ils partent dans les régions un peu éloignées, c'est une période de reconstruction et que du coup, ils font un petit peu profil bas pendant une vingtaine d'années.
Exactement.
Et puis que là, ça y est, les mecs, ils reviennent, quoi.
Mm-hmm. Puis il y a probablement des gens, ça peut être Snoke ou quoi que ce soit, on va l'apprendre en le lisant, le livre, mais il va refaire des introductions au Sénat, ils vont vouloir revenir en politique.
Ah bien.
En tout cas, on verra bien.
Donc, en fait, ce serait peut-être justement l'aspect un petit peu géopolitique qui manquait peut-être dans le Star Wars 7.
Oui, on devrait en avoir beaucoup dans ce cas-ci. Claude Zegre mentionne aussi que le thème de la famille va avoir un rôle important lors d'un des événements importants du roman. Mais le livre n'est pas concentré sur le rôle de Léa en tant qu'épouse, mère ou sœur, dans le sens de Léa, Ben et la sœur de Luke, mais plutôt sur son rôle depuis la chute de l'Empire, donc côté plus politique, leader, ça va être concentré beaucoup plus sur ça. Apparemment, il y a certains personnages du Réveil de la Force qui vont faire leur apparition dans le roman, possiblement probablement des commandants qu'on a vus dans la Résistance ou quoi que ce soit. Elle dit pas vraiment.
Coup, en termes de perso, du coup, elle peut commencer à piocher large parce que, par exemple, les parents de Podamron, est-ce qu'on peut pas les insérer là à ce moment-là?
Bah, on pourrait, oui. En effet.
Tu vois? Et puis alors, du coup, moi, j'ai pas eu tous les romans, ceux que t'as vus en VO. Il y a sûrement plein d'autres persos peut-être qui ont été placés dans Aftermath, etc. Mm-hmm. Elle pourrait prendre Yen Nom, elle pourrait prendre l'amiral Akbar. Et comme c'est plutôt son style, enfin moi... Je trouve ça hyper encourageant. D'ailleurs, je l'ai mis la photo de Leia qu'on voit les bras croisés. Je me la suis mis en image de profil. tellement ça m'a hypé, quoi.
Ça t'inspire.
Complètement. Bah, je venais, en plus, ils ont fait cette annonce. Je venais de terminer deux jours avant le Lost Star. Donc, du coup, j'étais là. Ah, oh, tu vois, et boum, on me fait cette annonce. Je trouvais que c'était. Pour moi, ça tombait au poil, quoi.
Y a un nouveau personnage, un nouveau visage qui s'appelle. Je vais essayer de le prononcer comme faut. Ransolm Caterfo. Casterfo, qui est un jeune politicien qui a des idéaux diamétralement opposés à ceux de Léa. Il est même un collectionneur d'artefacts de l'Empire. Donc on peut voir un peu. Ça fait penser à quelqu'un d'autre qui s'appelle Kylo Ren, mais lui, c'est plutôt concentré sur les trucs de l'Empire, comme il ramasse des trucs de Palpatine et des trucs, toutes sortes d'objets relatifs à l'Empire. Donc. Assez spécial. Donc, c'est qu'est-ce qu'on sait en gros. Et puis, je vais vous faire un petit résumé un peu de l'extrait en un paragraphe, parce qu'il y avait un extrait du chapitre 13 du roman. Donc, dans l'édifice de conférence du complexe sénatorial de la Nouvelle République sur Osnian Prime, donc ça se passe sur Osnian Prime, la planète qui explose.
On va avoir en plus l'explication de cette fameuse planète qui pète.
Comment le gouvernement est installé là.
Exactement.
Donc, Léa est invitée à une rencontre matinale pour discuter d'une décision critique au sujet de l'avenir de la galaxie. Elle croit que ce sera une journée typique de discussion politique lorsqu'elle reçoit un avertissement sur un bout de papier qui lui dit de courir. Elle quitte à la course et déclenche l'alarme du bâtiment. Léa réussit à sortir, suivie de plusieurs personnes, lorsqu'une énorme explosion engouffre l'édifice. Elle est emportée par l'onde de choc et des débris, puis perd connaissance. En fait, c'est ça, le résumé du chapitre. Donc, c'est un attentat, en fait. Je sais pas si on en avait...
Comme au début de l'épisode 2, quoi.
Oui, un peu comme ça. Et puis, on mentionnait aussi que dans les scènes coupées du Réveil de la Force, Léa envoyait Corsella, dans les scènes coupées, envoyait Corsella sur un Osnian Prime pour parler avec la Nouvelle République en son nom, parce qu'elle avait peur
avoir,
elle est mentionnée d'ailleurs dans l'extrait Corsella. Elle est envoyée là parce que Léa avait peur d'avoir des attentats contre elle. Donc c'est peut-être une des sources, justement. Elle était proche d'être victime d'un attentat, donc c'est peut-être pour ça que elle est hésitante de retourner sur un Xenion Prime et elle envoie Corsella à sa place dans le film. Mais bon, d'après moi, qu'est-ce qu'on va voir dans ce roman-là, c'est comment que Léa a pris la décision de créer la résistance. Selon moi, c'est ça qu'on va voir dans le roman. En tant que politicienne, elle va voir les premières fissures qui fait qu'elle voit que le Sénat est corrompu, etc.
Il faut préparer un second... Parce que ce que tu disais par rapport à la critique de la novélisation, c'est que finalement, la résistance, elle a pas de c'est pas la rébellion, la résistance. C'est pour ça que ça s'appelle différemment. C'est en gros, on a remis quelque chose de nouveau parce qu'on s'est rendu compte que la République n'était pas assez costaud pour se défendre.
Mm-hmm. Bah, en fait, c'est plus qu'elle est inerte. Elle fait rien pour régler les problèmes qui commencent à se créer. Il y a de la corruption au Sénat, etc. Donc, elle voit ça et elle voit que personne ne fait rien. Donc, elle dit, ben, je vais prendre tout ça entre mes mains et elle crée la résistance. D'après moi, c'est ça qu'on va voir. Peut-être que le livre va finir avec la création de la résistance et comment qu'elle va amener Poe Dameron à faire partie de la résistance aussi.
Et du coup, ça fait vraiment que tu vois tous ces gens qui ont critiqué l'épisode 7 en disant « Ouais, c'est tout con, on sait pas pourquoi il y a ça. » Ben, c'est vrai qu'ils ont un peu raison, c'est vrai qu'eux, ils savent pas, mais en fait, dire que c'est pas construit, que c'est pas réfléchi, au contraire, c'est tellement réfléchi, tellement construit, visiblement, avec cet UE, qu'en fait, on n'avait pas le temps de tout vous expliquer dans le film, tout simplement.
Et alors, c'était pas nécessaire de l'expliquer dans le film. C'est de l'information supplémentaire. Oui, ça aurait pu aider, mais...
Certaines personnes diront, bah, c'est bizarre, c'est toujours pareil qu'avant. Mais non, mais il s'est passé des trucs entre-temps. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas une série télé non plus. Hein. Une série télé, t'as le temps de développer plein de trucs.
Oui, complètement. Hein, complètement. Mais c'est vrai que je pense que là, par contre... Ça va être un roman essentiel quand même.
Mm-hmm. Et puis
là, il a annoncé roman jeunesse ou roman adulte?
Non, c'est adulte.
Ah, ouais.
C'est roman adulte.
Donc du coup, ça veut dire que déjà qu'elle a envoyé du lourd là-dedans avec un roman jeunesse. Si en plus, donc c'est un roman adulte et que en plus elle a une certaine liberté parce que là finalement elle suivait juste la timeline des épisodes 4, 5, 6, tu vois. Mm-hmm. Elle était prise un peu scénaristiquement que là du coup elle va vraiment apporter des. Je pense qu'ils ont dû sentir le potentiel chez elle et qu'ils se sont dit là on va la placer sur un roman hyper important.
Mm-hmm. Fort probablement. Et puis ça va être. Je suis pas certain qu'il va plaire à tout le monde parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de politique dans ce roman-là, un peu comme le roman de la prélogie.
Oui, Ventraison
et Cloak of Deception en anglais. Ça va être un peu le même style.
Où tu voyais l'histoire avec Valrhum, c'est ça?
Ouais, exactement. Donc, ça arrive, selon moi, ça va être très, très politique. Donc, ça sera pas tout le monde qui va aimer ça. Mais ceux qui veulent en savoir plus, ça va être un bijou, selon moi.
Ah ouais, je pense aussi. Ça m'a l'air d'être un truc vraiment essentiel, plus même que Aftermath. Parce que Aftermath, oui. Si j'ai bien compris ce que disait Henri, ça va surtout raconter une bataille, quoi.
Pas vraiment, non.
Non?
Non. Aftermath, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est... C'est une ex-pilote rebelle qui retourne sur sa planète natale pour aller rejoindre son fils après la guerre. Et puis elle se rend compte qu'il y a une rencontre d'impériaux sur la planète qui essaie de reconstruire un peu l'Empire. Et ses liens avec la rébellion, ben elle intercepte un message de Wedge Antilles en détresse. Et elle communique avec la rébellion pour... l'avertir de qu'est-ce qui se passe et sur la planète elle retrouve son fils et elle s'allie avec certains un ex-impérial etc et une chasseuse de primes et ils essaient de désamorcer un peu la réunion impériale qui est en train de se faire. C'est un peu ça qu'il y a dans Aftermath, mais dans Aftermath il y a une super surprise à la fin.
Tu ne vas pas révéler, bien sûr.
Non, c'est sous-entendu, mais ça va plaire à énormément de monde. Le livre est plutôt ordinaire, mais...
D'ailleurs, Aftermath en France, en VF, va sortir chez Pocket d'ici une dizaine de jours. Donc pour un peu, si ça se trouve, quand l'émission sortira, ce sera, donc je crois que ça doit être autour du 20 et quelques février. Mm-hmm. Ce sera peut-être, l'émission va peut-être sortir en même temps qu'Aftermath. Donc
on pourra revenir
y aller pour tenter le coup. Hein.
Je pourrais peut-être faire une critique plus approfondie à ce moment-là.
Tu peux nous faire un Star Wars Express.
Ouais, aussi, en effet. En effet. Puis, un de mes derniers commentaires par rapport à cette annonce de Bloodline, c'est que enfin, étant donné que le film est sorti, ils peuvent ouvrir les 30 ans entre les entre l'épisode 6 et 7.
Ah, pas tout, à mon avis.
Ben, pas tout, non, c'est certain.
Oui, parce qu'on va avoir des surprises dans le 8 et le 9, et quelque part, elle ne peut pas trop en dire non plus.
Non, mais du moins, on va commencer à construire, à reconstruire l'épisode.
Oui, parce que finalement, ils nous sortaient des bouquins et des comics en lien avec le Réveil de la Force, mais il fallait qu'ils en disent sans trop en dire. C'est pour ça qu'ils étaient bloqués, en fait. Mm-hmm.
Et puis, le plus gros problème qu'avait l'univers étendu, l'univers canon maintenant, et c'est qu'il y avait les mains liées avec les personnages. Et puis, on avait des histoires qui se concentrent. Nous, qu'est-ce qu'on aimait de l'univers étendu Legend dans le temps, c'est qu'on suivait nos personnages du Big Tree tout le temps. Et du Big Tree et de leurs enfants, en fait. Dans les 30 ans. Et puis, depuis l'annexation en légende, on n'avait aucune histoire, du moins entre ces deux périodes, qui mettait en vedette un des personnages principaux. Oui, ok, Heir to the Jedi, mais c'était encore Luke dans la trilogie classique. Donc, je parle hors de la trilogie classique. Ça va être, des premiers romans vraiment concentrés sur un des personnages classiques qu'on aime. Et puis, dans la période qu'on veut en apprendre plus.
Avec un tournant crucial pour l'histoire.
Mm-hmm.
Donc, on pourrait dire, finalement, Danny, que c'est un des romans qu'on attend le plus.
Oui. Bah,
chez vous, il va pas tarder, quoi.
Le 3 mai.
C'est avril, non ?
3 mai 2016.
Mai 2016. Mm-hmm. Ouais, donc, du coup, c'est quand même très bientôt, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, Danny, tu nous as fait un Star Wars Express également sur la novélisation que tu as lue. La novélisation de l'épisode 7. Visiblement, si j'ai bien retenu la leçon, c'est que il ne s'agit pas contrairement à la novélisation de Matthew Stover de l'épisode 3, il ne s'agit pas d'une novélisation qui apporte une vraie plus-value, quoi. Finalement.
Non, exactement. J'ai été déçu dans le sens que j'ai vu le film, puis pour la première fois, je lisais pas le roman avant de voir le film. Donc, j'ai vu le film et je me suis dit, cette scène-là, j'ai hâte de lire le livre pour voir qu'est-ce qu'il pense ou c'est quoi la situation dans la tête de tel personnage, etc. Telle autre scène. Je pensais à deux scènes plus particulières, celle de l'interrogatoire entre Rey et Kylo Ren. Je me suis dit, quand les deux se lient leurs pensées dans le roman, ça va être développé, on va voir toutes les images qu'ils voient dans leur tête, etc. Absolument rien, à part Kylo Ren qui frappe un mur. Et puis, l'autre scène que je voulais absolument voir en roman, que j'aurais aimé avoir du détail, c'est quand Luke et Rey se voient. Le silence qu'on voit, il aurait pu rentrer dans leur tête et on aurait pu voir des superbes descriptions, etc. Ça aurait été tellement
non.
Mieux.
Non, en même temps, Danny, parce que si tu rentres dans la tête et que Luke il se dit tiens ma fille ou que l'autre se dit tiens mon père ou tiens mon oncle, du coup boum, c'était spoilant.
Ouais, de ce côté-là.
Donc, il fallait maintenir le système, quoi. Enfin,
c'est ça que je dis en fait dans la critique, c'est que je trouve que les menottes ont été mises à Alan Dean Foster qui est un très bon auteur, mais il pouvait rien dire. Puis même les scènes coupées, tu sais, où il aurait pu rajouter à l'histoire ailleurs que la fin par exemple. C'est oui, Luke.
Il pouvait rajouter des anecdotes, quoi.
Bah, c'est ça. Mais Luke et Rey, je te le donne. Mais l'interrogatoire entre Rey et Kylo Ren, il aurait pu mettre du détail. Il aurait pu. Toutes les scènes coupées sait qu'il y a dans le film.
Non, Danny, parce que du coup, si jamais Kylo Ren se disait tiens, ma cousine, ou je suis jaloux, parce que.
Ouais, Luke, pas obligé de donner cet exemple-là, mais. Pas obligé d'aller dans le détail comme ça. Mais avoir des images. Une description quelconque, comment qu'il se sent.
Bah, du coup, je l'ai pas lu, hein, mais.
Non, c'est ça, on voit même pas comment qu'il se sent.
Donc... Mais en même temps, ça me semble logique qu'ils en aient pas trop fait non plus, quoi.
Oui, moi aussi, mais je trouve que c'était un peu trop limite. Il y a absolument rien de plus. C'est le premier roman qui a absolument rien de plus dans la novélisation. Mm. Même l'épisode 4, il y avait plein de choses qui étaient même pas des scènes coupées.
Donc si j'ai bien compris, en fait, moi c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'il vaut mieux attendre la sortie du DVD ou du Blu-ray pour avoir les bonus en vrai et les voir et que ça vaut ce.
Et je pourrais vous dire à ce moment-là s'il y a des choses en plus, mais d'après les scènes que je me souviens qui étaient en plus, c'était toutes les scènes coupées qu'on a parlé.
Tu vois la police de Jakku, là, ceux qu'on a vu en film.
Ouais, ouais.
Aussi dans
le flashback est un peu différent, mais à part ça.
Et puis tu vois les véhicules qui
sont les vieux. Il y a la poursuite. Il y a la poursuite de. Sur. La poursuite de Speeder sur.
Sur la neige.
Ouais, sur la neige, etc. Qui ressemble énormément à la poursuite sur Endor. dans les arbres, etc.
Ouais, mais du coup, je crois que je préfère la... Du coup, au début, je voulais me l'acheter, la novélisation, et je crois que je ne vais pas l'acheter.
Non, mais tu peux l'acheter si t'es un fan de littérature, parce que tu vas revivre le film. Oui, donc,
mais
ça va être très bien.
Tu vois, j'aime autant me le remater, quoi. Mm-hmm. Parce que, comme moi, comme je dis souvent, c'est Star Wars, moi, je préfère en film qu'en roman. Le roman, c'est juste parce qu'ils font pas assez de films, c'est tout. Mm-hmm.
Donc, en gros, ben, c'est ça. J'ai donné une note de 7 sur 10 parce que quand même, c'est une bonne histoire. Veux pas, l'histoire est bonne. Mais bon, je m'attendais à plus, vraiment.
Et tiens, à titre de comparaison, tu mettrais combien justement à Lost Star?
Ah, j'ai donné 9. J'avais donné 9 sur 10 dans mes critiques sur Star Wars en direct express.
Bon, moi, je mets des notes sur 20, mais c'est vrai que le Stars, je l'aurais bien mis un 15 ou 16 aussi. Hein. Mm-hmm. Et donc, ouais, plutôt bon. Et j'avais pas donné de notes aussi pour mes comics, rapidement. Le Lando, je lui mettrais un petit 11. Les Ruines de l'Empire, je lui mettrais bien un 14-15. Et Kenan, pareil, un 14-15.
Et je vais terminer rapidement sans aller dans le détail. J'ai aussi lu le roman Battlefront, Twilight Company. Donc, en gros, ça raconte... l'histoire d'une unité mobile d'infanterie de l'Alliance qui sont là pour en fait ouvrir le chemin à l'armée régulière. Non, c'est pas des commandos, mais c'est comme la première ligne d'attaque, en fait.
Est-ce que ça... Alors, c'est un petit peu, pour résumer, hein, les romans de Karen Trevis à l'époque sur Imperial Commando, quoi, non?
Un peu, oui. C'est similaire. C'est le genre de livre que, bon, ça donne un point de vue différent de la guerre civile galactique. C'est cru, c'est viscéral, c'est vraiment un peu comme la série Band of Brothers ou The Pacific, où est-ce que tu suis un bataillon lors de leurs différentes missions, puis tu apprends à connaître l'unité tout au long de l'histoire, donc tous les personnages. C'est un peu qu'est-ce qui est la prémisse de Rogue One, un peu, hein? On c'est des soldats au front qui font le sale boulot, en fait.
Alors, chronologiquement, ça se passe quand, là?
C'est ça un petit peu avant la bataille de Hoth, et ça passe jusqu'après la bataille de Hoth.
Ah, parce que du coup, la carte de Hoth, c'est la carte la plus,
bien sûr,
la plus mythique du jeu, quoi.
C'est ça. Donc, puis même dans Star Wars, on est habitué de voir l'histoire se développer du côté des héros. Et du commandement de l'Alliance, ici, c'est vraiment... on suit l'histoire au niveau du soldat dans les tranchées. C'est vraiment... Il y a deux personnages principaux qui sont vraiment intéressants là-dedans. C'est le sergent Namir et la gouverneure. Je peux pas aller dans le détail de l'histoire. On n'a pas assez de temps là, parce qu'il faut vraiment couper bientôt. Je reviendrai sur une critique plus en détail.
Donc, où, en fait, tu suis un personnage dans chaque camp, alors?
Non, non, non. C'est que... Il y a une gouverneure de l'Empire qui demande l'asile, et elle connaît plein d'informations, et ils se servent d'elle pour planifier des attaques sur l'Empire, parce que vraiment les rebelles ont énormément de difficultés. C'est après la destruction de l'Empire, de la première étoile noire, et l'Empire est vraiment à la poursuite des rebelles, et ils sont en train de prendre le dessus, et les rebelles ont besoin d'un bon tournant pour réussir à leur faire un gros coup à l'Empire. Et puis avec cette gouverneure impériale qui les aide, ils sont capables de planifier des stratégies pour essayer de vraiment leur faire un grand coup et avancer leur cause, en fait.
Et chronologiquement, tu vas les suivre longtemps ou pas, ces personnages?
Je dirais que c'est peut-être l'espace de un an ou deux.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc on va même pas jusqu'au retour du Jedi.
Non, on va pas jusqu'au retour du Jedi.
Il y aura une suite ou pas?
Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout.
Et non. Tu trouves qu'il est... Mais du coup, il est un peu anecdotique, ce roman.
Oui, mais c'est intéressant dans le sens... Mais si t'aimes les romans de style militaire un peu, tu vas aimer ça. C'est pas vraiment basé sur le jeu vidéo. Tu sais, on dit Star Wars Battlefront.
Imperial Commando était pas tellement basé sur le jeu vidéo non plus.
Non plus, c'est ça.
Il y a une autre équipe, hein.
Mais par exemple, si tu penses à The Force Unleashed, le pouvoir de la force, le roman était carrément le jeu, là. Mais dans ce cas-ci, c'était pas ça non plus. C'est ça, exactement. Donc oui, il y a des petits liens peut-être avec jeu Battlefront, comme certaines armes, etc. Puis la fin du roman, ça fait penser un peu au mode survie dans Battlefront, où est-ce que t'as des rebelles qui doivent faire face à des vagues et des vagues de Stormtroopers sur Sollust pendant qu'il y a une bataille en atmosphère. Donc c'est un peu qu'est-ce que tu peux voir dans une des missions du jeu, mais bon, en général, si t'aimes les fictions militaires, tu devrais aimer ce roman-là. Cependant, attends.
J'aime bien les romans militaires, toi, comme Imperial Commando et République Commando, mais parce que t'avais un aspect humain génial derrière.
Ah, ça, pas que la baston. Non, ça, c'est excellent comme. Puis la relation entre le sergent et la gouverneure impériale est excellente, leur interaction. Parce que tout le long de l'histoire, tu sais pas si la gouverneure est vraiment là pour les aider ou est là infiltrée dans les rebelles pour donner de l'information à l'Empire. Fait que t'as tout le temps cette interrogation-là tout au long de l'histoire. Est-ce qu'elle est là pour vraiment finaliser les rebelles ou à donner de l'information à l'Empire ou l'inverse? Donc, c'est vraiment intéressant de suivre de ce côté-là.
Donc, pour toi, c'est un très bon roman, alors, si j'ai bien compris.
Oui, je dirais 7 et 8 sur 10.
7.5. 7.5.
Sur 10, ouais. Cependant, attendez-vous pas à des combats de sabre laser ou des batailles de chasseurs. Il n'y a absolument pas ça là-dedans. Du tout. Il y a un caméo.
Infanterie, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, Namir et la gouverneure Chalice croisent Darth Vader sur la Echo Base pendant la bataille de Hoth. Je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas mal le seul caméo. Ils croisent aussi, je pense, Han Solo, mais ils disent pas que c'est Han Solo dans le roman. Donc, c'est les seuls vraiment liens. En tout cas, j'irai pas en détail plus que ça.
Et nous, je crois qu'il est pas encore planifié en France, celui-là.
J'ai même l'impression qu'il sortira peut-être pas.
Il sortira pas.
Peut-être. C'est le genre, c'est le type.
Si il sort, ce sera un an et demi après le jeu.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est pertinent. Puis moi, malheureusement, hein, c'est, même si tu t'en dis du bien, c'est pas forcément le roman que j'attends le plus.
Non, exactement. Moi, c'est un autre roman que j'ai lu parce que j'étais rendu là dans ma lecture. J'essaie de tous lire les romans pour adultes. Donc, et puis, je l'ai lu en deux parties parce que, premièrement, j'ai commencé à lire et le roman de l'épisode 7 est sorti. Donc, j'ai arrêté ma lecture pour lire le roman de l'épisode 7 et puis je suis revenu ensuite à ce roman-là. Donc, juste pour te dire que la priorité pour moi était vraiment la novélisation plus que ce roman-là.
Alors que finalement, c'était le mieux, quoi, la novélisation.
Ben, c'est différent. C'est parce qu'il n'y a absolument aucun personnage connu, etc. Donc, faut que tu t'attendes à... C'est un livre différent, complètement. Donc, avant de terminer, peut-être que je dirais les livres qui s'en viennent côté anglophone, du moins, qui vont sortir. Donc, le 5 avril... En anglais toujours, Tale from a Galaxy Far, Far Away, volume 1, Aliens, donc un Tale of, Tale from.
C'est le combiné des petites nouvelles sur les aliens.
Ouais, exactement. La même date aussi, le 5 avril, tu vas avoir une encyclopédie, Star Wars Character Encyclopedia, Updated and Expanded, donc une nouvelle version de l'encyclopédie des personnages qui va sortir.
Ouais, mais alors, avec l'ancien UE ou pas?
Non, ça doit être juste avec ce qui est canon. Le 3 mai, t'as Bloodlines de Claudia Gray.
Ouais.
Le 19 juillet, Aftermath Life Depth. Exactement. Le deuxième de Chuck Wendig. 6 septembre, Star Wars Art of Ralph McQuarrie. Donc, c'est un beau livre ici.
Ouais.
6 septembre. Et le 25 octobre, un des beaux livres que j'attends le plus, The Making of Star Wars The Force Awakens. Donc, la grosse brique.
Dans la même série que les autres qu'on avait sur la trilogie originale.
Oui,
quoi.
La grosse brique. Ouais.
D'accord.
Et voilà.
Eh bien, en tout cas. Merci Dany pour toutes ces informations. Du coup, nous allons devoir rendre l'antenne puisque juste derrière, nous sommes des fous, hein, nous enregistrons la Star Wars Direct 118. Je te remercie Dany, hein, du coup, d'avoir participé à ton émission. Et puis, nous allons remercier à nouveau nos partenaires Mintinbox, Star Wars Solenet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O, Génération Star Wars et Science Fiction. De la part donc de Dany et moi-même, nous vous souhaitons donc une excellente période de littérature Star Wars. Donc voilà, on vous a donné 2-3 petites idées de ce qu'il pourrait y avoir à lire prochainement. Et puis on refera certainement une Star Wars littérature, mais pas avant le mois d'avril ou mai. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins voilà qu'on ait un petit peu de matière. Je pense qu'on attendra que le tome 2, notamment en comics des Star Wars et Darth Vader et Chewbacca soit sorti. Et puis comme ça on aura un petit peu de retour. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les romans et comics que vous lisez, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez envie de nous faire part de voilà d'un coup de gueule, d'un coup de cœur. N'hésitez pas, on n'hésitera pas à les retranscrire sur l'émission, hein, comme on le fait dans Star Wars Direct, émission classique. Voilà.